Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Je suis très heureux de présenter mon collègue et grand ami Philippe Levillain, qui est une autorité internationale en histoire religieuse et en histoire de la papauté. Et j'ai fait sa connaissance il y a, on dira, quelques années à Rome, où il m'a reçu dans son bureau à l'école française de Rome. Il avait déjà la langue qu'il démontre dans cet ouvrage de feu qu'il nous présente ce soir. Rome n'est plus dans Rome. Alors Philippe Levillain est professeur émérite d'histoire à l'Université de Paris. Il est membre du comité pontifical des sciences historiques, membre de l'Institut de France. Et il est l'auteur, le directeur du célèbre dictionnaire historique de la papauté chez Fayard.
Dans lequel tu as écrit.
Donc j'ai écrit, mais peu de choses par rapport à cette œuvre majeure que tu as managée et en grande partie rédigée, remarquablement, avec un esprit, je dirais, d'entreprise que je n'aurais pas deviné au départ. Ça a été... Philippe Levillain, la tête d'un dictionnaire, j'avoue que ça a été ma grande, grande admiration. Alors ce livre, donc, c'est « Rome n'est plus dans Rome », Monseigneur Lefebvre et son Église. Alors on a pu réviser que le fameux « Rome n'est plus dans Rome », que nous répétons tous à propos de toute situation ici, c'est au sens propre, et que c'est donc tiré de Corneille, Sertorius. Et j'avais oublié complètement que c'était dans Sertorius qu'il y avait cette phrase remarquable. Alors, « Rome n'est plus dans Rome » a un sous-titre, « Monseigneur Lefebvre et son Église ». Et d'emblée... Je pense que dans ce beau livre présenté chez Perrin, il y a une thématique qui est présentée par le sous-titre « Monseigneur Lefebvre et son Église ». Alors, ça n'est plus l'Église romaine, ça n'est plus l'Église catholique. Est-ce que c'est un fondateur d'Église ? Est-ce que c'est un personnage historique au niveau peut-être de Calvin, de Luther ou, oui, enfin, voilà ma question, ma première question.
Il faut que je réponde maintenant ? Déjà. Donc je reprends ce que j'ai dit, je le maintiens, donc je remercie Denis et Constance Melin de m'avoir invité pour la troisième fois, et toi d'accompagner de questions toujours aiguës et parfois plus subtiles que ne donne l'apparence de la gentillesse, parce que tu es un esprit fin, sur ce livre que j'ai écrit. Avant de répondre à ta question, je me suis dit qu'au fond, je pouvais peut-être vous expliquer, c'est un damné de la Terre, ça, pourquoi j'avais pensé écrire ce livre. Il y a trois raisons. La première est quand même le choc qu'a donné à ma génération, à mon âge, donc j'avais à l'époque, l'âge que j'avais à l'époque, le schisme. C'est-à-dire, en fait, de la part de Jean-Paul II, un homme certes actif, athétique même en théologie, la volonté de rompre, après une provocation qui était celle de la consécration de quatre évêques sans l'autorisation de Rome. Canoniquement, il n'est pas possible de consacrer des évêques sans obtenir que Rome, surtout en France, donne son accord. Provocation qui a été une affaire de longue durée, et c'est le premier choc que j'ai eu, à savoir qu'il y avait un schisme finalement qui se produisait en France. Et la deuxième question que je me suis posée, pourquoi en France ? Pourquoi est-ce que le Concile Vatican II, qui était un concile qui a été accueilli avec un enthousiasme extraordinaire et croissant, dire, la proposition faite par Jean XXIII le 25 janvier 1959 a brusquement retenti comme une espèce d'effet tonnerre qui a fait que d'année en année, de 59 l'annonce du projet, à 62 la réalisation du début, 65 la fin de Vatican II, le 8 décembre 65. Jamais le monde ne s'est intéressé autant à un événement d'Église. Je crois qu'on peut dire que, vraiment, l'Église a eu entre les mains le destin du monde pendant le Concile Vatican II. Tout était attendu. La paix, la fin de la guerre, la solidarité internationale, je dirais même la fin de la fin, et également, dans le domaine moral, une sorte de libération qu'on prenait pour une sorte de nécessité dans un ordre moral un peu compliqué, puisqu'il manque à Vatican II, une chose qui est très importante, qui s'appelle un volet de théologie morale sur la question des mœurs, qui est en train de régler, à sa façon, Benoît XVI. Et la troisième raison, je me dis, mais enfin, pourquoi est-ce que c'est Monseigneur Lefebvre qui était inapparent au Concile ? J'étais attaché de presse de l'ambassadeur René Brouillet à la quatrième session du Concile en 1965. J'étais un jeune mouflet, mais j'avais déjà quelques curiosités intellectuelles, et je n'ai jamais vu Monseigneur Lefebvre français. dans une réception à l'ambassade de France entre le 8 septembre et le 8 décembre 1965. Jamais. Le père de Lubac, le père Congar, le père Chenu, le cardinal Koenig, beaucoup de gens. Jamais. Donc ce personnage, qui était insignifiant, et dont on a dit qu'au Concile, il s'était opposé à tout, qu'il a voté aucun texte, ce qui est faux, qu'il a fait déclaration flamboyante, ce qui est faux, organise, et pourquoi ? Il revendique un schisme qui est finalement soldé en 1988. Et c'est pour ça que je me suis posé cette question, je me suis dit au fond, un, la France, le Concile, c'est tout de même un événement mondial dans lequel la France a joué un rôle très important, souligné par tout le monde, et qui finalement nous déshonore dans la mesure où nous obtenons ce qu'on appelle la rupture de la tunique. Vous savez que l'Église n'a qu'une seule tunique, en principe. Et pourquoi ce personnage, cet homme, au visage si doux, respirant une certaine bonté, mais volontaire, têtu, issu d'une famille du Nord, d'une famille de 6 enfants, famille du Nord huppée, et famille de 6 enfants, absolument, indubitablement grand croyant, attaché à sa foi, fait-il courir à l'Église du monde entier le risque d'un schisme ? Donc, à partir de là, cette interrogation est aussi confirmée, ce serait le quatrième point éventuellement, par le fait que Benoît XVI, finalement, décide un jour, et dans très mauvaises circonstances, de lever les excommunications qui, naturellement, obéraient la charge pastorale des 4 évêques en question, après la mort de Mgr Lefebvre encore. Question qui, vous souvenez, a soulevé un tollé, puisque c'est tombé très mal pour Benoît XVI, qui est un homme intelligent, savant, subtil et aimant, mais qui n'a pas de chance. Chaque fois qu'il fait un geste, il tombe toujours à côté de la plaque. C'est le théorème de la tartine beurrée. Il fait un très beau discours sur Ratisbonne pour expliquer qu'il faut que l'islam et le christianisme se réconcilient sur l'intelligence de la foi. Malheureusement, on dit, mais enfin, c'est pas possible, cet homme-là met le feu aux poudres. Bon, alors, il était bien. Je pourrais multiplier les exemples. Donc, c'était aussi ma 4e interrogation. Donc, j'ai fait ce livre. Pour faire ce livre, j'ai obtenu des archives assez rares que j'ai exploitées parce qu'il y avait déjà un livre. Il y avait une biographie de Mgr Tissier de Malrais, qui est un des 4 évêques excommuniés qui avait été consacré donc par Mgr Lefebvre, qui est une biographie qui n'est pas si négative qu'on le croit. C'est une hagiographie, certes. Mgr Lefebvre est présenté comme un personnage absolument extraordinaire, au-dessus du lot de tout évêque, de tout archevêque, et même à la limite comme étant le pape idéal dont il aurait fallu rêver, pour l'Occident chrétien en tout cas. Et ce livre est plein d'informations. Donc je suis parti de là, et après ça j'ai le besoin d'aller à Écône pour voir les papiers du séminaire d'Écône que Mgr Lefebvre a fondé, qui est en fait le point central de sa référence, puisqu'il fallait qu'il ordonnât des séminaristes pour constituer son église. J'ai pas pu y aller parce que j'avais écrit dans mon dernier chapitre du livre sur le moment Benoît XVI, que j'ai présenté il y a 2 ans ici, des choses assez sévères sur Mgr Lefebvre, et par conséquent, j'ai envoyé un étudiant sous couleur d'une thèse qu'il faisait, non pas sous ma direction, mais d'un autre de mes collègues qui m'a prêté son nom, et on lui a ouvert les archives des Cônes. Voilà. Ce qui m'a permis de savoir un certain nombre de choses que je ne pouvais pas voir moi. Bon. Et puis j'ai eu les archives du séminaire français de Rome. Cette immense institution qui, malheureusement, est aujourd'hui passée des pères spiritains à l'épiscopat français, je le dis d'autant plus qu'il n'y a pas d'évêque dans la salle, quoique j'ai envoyé mon livre à Mgr Ricard, qui a oublié de me répondre, à mon avis, il doit être ailleurs, et que ce séminaire français a formé les prêtres et les membres de la curie romaine depuis le 19e siècle jusqu'à une époque très contemporaine. Le cardinal Torrent, ce grand monsieur qui est bordelais, comme vous le savez, est issu du séminaire français de Rome. Donc, je passe aux autres archives que j'ai obtenues. J'ai essayé de faire un tableau de ce que pouvait être l'itinéraire intellectuel, spirituel, d'un homme qui, au départ, a une vocation vraie dans un climat que le climat classique de la vocation d'un enfant né dans une famille très catholique, avec une mère très fervente, un père entrepreneur, maurassien, donc très très lié à l'Action française. Et je suis vraiment désolé, très lié à l'Action française, on va y revenir si tu veux bien, et qui brusquement, au moment du Concile, prend un chemin étrange, puisque Mgr Lefebvre, je viens de le dire, parle très peu au Concile. Il fait partie de ce qu'on appelle le coetus internationaliste, qui est fondé par un cardinal brésilien, par un évêque brésilien, qui rassemble des protestataires. Mais il en fallait. Il fallait bien quand même que la discussion existât. Je pourrais dire un mot, déjà, si tu me permets, ça fait une insiste, mais Le grand problème de Vatican II, c'est qu'il a soulevé des espoirs immenses, ce concile, ce 21e concile, et qu'il n'y a pas eu de concile depuis le concile de Trente, donc au XVIe siècle, qui a été convoqué par Paul III Pardès, comme chacun sait, et qui a quand même mis 17 ans à aboutir, bon, et qui a donné la contre-réforme. Et que le monde entier attendait que l'Église montrât ce visage dont je parlais tout à l'heure, et que Mgr Lefebvre est arrivé là parce qu'il était dans cette position étrange d'être évêque de Tulle, où on l'avait exilé, et d'autre part, bientôt supérieur de la congrégation des Pères du Saint-Esprit, qui est une congrégation dont il a pris la tête après une campagne étonnamment musclée, étonnamment organisée, puisque pour convaincre, il a fait ce qu'on peut appeler du terrain, comme fait Madame Royal en ce moment. Il y allait avec ça de chevaux et il faisait semblant de la réparer pour montrer qu'il était aussi un technicien de la voiture et pas seulement un pasteur ou, disons, un théologien qu'il n'est pas d'ailleurs. Voilà, je vous ai raconté en gros l'objet de ce livre et la réponse, elle est là, à savoir pourquoi est-ce que Mgr Lefebvre, finalement, a couru le risque et encouru le risque de ce schisme qui, pour l'instant, est en train de se résoudre, mais qui n'est pas, dont il n'est pas sûr qu'il se résolve, parce qu'il est très compliqué.
Merci. Effectivement, c'est un phénomène, c'est un phénomène français, un peu latino-américain peut-être,
après.
En tout cas pas romain, puisque je me souviens d'un romain me disant dans le train, en sortant de Rome, je comprends pas les Français de critiquer comme cela notre évêque. C'était un petit peu snob d'une certaine manière, mais de l'autre, ça montrait combien à Rome la fidélité au pape était totale. Et dans ton livre, qui est absolument passionnant, dont tu viens de retracer la genèse et surtout la force des archives, il y a une première étape capitale qui occupe une bonne cinquantaine de pages sur le séminaire français de Rome, dont tu viens de parler,
oui.
Et l'influence justement de l'Action française. Alors Bordeaux, c'est une ville lourde pour l'Action française, puisque la condamnation est partie donc depuis le cardinal Andrieux. Il y a toujours eu des milieux d'Action française à Bordeaux. Et comment l'Action française, qui est un mouvement politique, a-t-il pu imprégner comme cela des générations de professeurs, de prêtres et d'évêques plus tard?
Alors,
dont Lefebvre, dont Monseigneur Lefebvre.
Dont Monseigneur Lefebvre. Le cardinal Torrent, que je cite souvent, et qui est pour moi une référence intellectuelle et surtout spirituelle, m'expliquait que quand il était au séminaire français, donc dans les années 60, il m'a dit un jour, l'odeur du moralisme régnait encore dans les couloirs du séminaire français de Rome, qui est, comme vous le savez, dans le centre de Rome, qui a été fondé donc en 1856, et qui occupe une position stratégique dans Rome, à la Via Santa Chiara, donc tout près de la Minerve, qui est votre église, mon père, et qui fait partie de ces grandes institutions romaines que l'on visite et que l'on regarde avec respect. Le cardinal Gouillon, qui fut mon aumônier au lycée Michel Montaigne à Bordeaux quand j'ai fait mes études avec un académicien qui s'appelle Claude Dajas, le lycée Montaigne a formé que des génies. Sauf moi. Sauf moi. Sinon, je ne le dirais pas. Et il disait aussi que quand il est arrivé au séminaire français de Rome en 1934, peut-être le 30e année, il n'a pas pu respirer l'odeur du maurrasisme. Je vais vous expliquer comment je vois le maurrasisme dans l'Action française. Et qu'il a été, du coup, exilé, on lui a demandé de ne pas revenir. Il lisait des revues qu'on considérait comme des revues modernistes, certes, en tout cas progressistes, disons, en gros, dont la Revue des Deux Mondes, qui ne me semble pas quand même être un monument de révolution intellectuelle, bon bref. Et donc, il a été prié de rentrer à Bordeaux, et son évêque lui a dit, il faut repartir pour une formation romaine. L'évêque, à l'époque, je ne sais pas qui c'était.
Felta.
Non, en 30, dans les années 30.
Non, c'était Andrieux, mais il prenait aucune décision.
En tout cas, lui a dit de repartir. Et il s'est installé au séminaire canadien, où là, il a trouvé son bonheur. Il est quand même devenu cardinal de la Sainte Église romaine. Alors, le problème est de savoir, c'est ce qu'on peut appeler des libéraux, qui avaient l'intention de réfléchir sur l'Église autrement que la façon dont le supérieur, voilà le nom, le père Le Floc, F-L-O-C apostrophe H, qu'on prononce en principe le flot, mais là, les historiens font une bataille linguistique, savoir si on dit le floc ou le flot, bon, moi je dis le floc comme on dit usuellement, était supérieur du séminaire français de Rome depuis 1906. Et il est resté jusqu'à sa disgrâce lourde et violente, en 1927, après la condamnation de l'Action française. Qu'est-ce que le père Le Floc vendait, si j'ose dire, dans son éducation? Un style, une autorité, une allure, une direction, ce qu'il faut à de jeunes séminaristes. Et ce qui, à l'époque, n'était pas évident, pour des vocations nombreuses, très nombreuses. Aller à Rome, c'était un peu comme être envoyé au concours général. Ça n'existe plus non plus, ça, mais c'était être reconnu par son évêque comme étant un point d'excellence éventuel qu'il fallait absolument diriger vers ce qu'on appelle la romanité. Alors, la romanité, qu'est-ce que c'est ? C'est l'attachement à ce qu'est le centre de la catholicité, à savoir le tombeau de Pierre et l'universalité de l'Église. À partir de ce tombeau, Pierre martyr enterré sous le tombeau papal, enfin, l'autel papal, comme on dit, l'autel pontifical, étant celui qui atteste que l'Église qui a été confiée à ses soins et ses successeurs doit toujours être à la fois centripète, revenir vers le centre, le Christ, et centrifuge, aller à l'extérieur dans les missions, et par conséquent s'étendre vers l'universalité. C'est la catholicité au sens propre, toute catholicité est forcément romaine. Je ne vais pas exposer à des gens comme vous la longueur du débat qui, pendant 20 siècles, a opposé Rome à Constantinople, à Moscou, la deuxième Rome, la troisième Rome, et à la Rome de Mgr Lefebvre, qui est aussi un autre problème. Mais c'est ce problème de l'unité. Il est vrai qu'on reconnaît aujourd'hui que peut-être que si l'islam avait un pape, si j'ose dire, en tout cas un imam qui serait l'imam des imams, il y aurait un dialogue plus facile avec le christianisme qu'aujourd'hui dans la dispersion des autorités et dans la façon dont chacun, à sa façon, exprime la relation avec la religion ou la confession qu'il proteste. Cette romanité a été, pour les séminaires français, au XIXe siècle, le point cardinal de sa fondation. Il fallait absolument que le christianisme, le catholicisme, donc, s'ancre là, vers le centre, vers le pape. Je rappelle que c'est un moment très critique. Le séminaire français, fondé en 1856, au temps du pontificat de Pie IX, reconnu sous le pontificat de Léon XIII, un peu plus tard, intervient, fait par des Français, notamment Claude Couillard-Desplaces, à un moment donné où la France est en difficulté avec Rome et où Rome est en difficulté avec l'Italie. Donc en 1870, Rome est prise par les troupes de la Maison de Savoie et donc Rome devient une capitale laïque, si j'ose dire, elle quitte son statut de capitale pontificale et romaine pour devenir une capitale italienne et savoyarde. Et donc la grande idée, c'est qu'il faut absolument garder et entretenir ce principe d'une religion catholique romaine. Je tiens à vous dire que c'est encore le débat aujourd'hui. Le cardinal Gouillot me racontait un jour que pour envoyer à Rome un jeune séminariste, il avait fait 33 fois le tour de tous les séminaristes qu'il avait sous ses ordres, et que personne ne voulait y aller. Bon. Aujourd'hui, aller à Rome, c'est considéré comme un enterrement de première classe avec pompons et harnais. Mais bon, ceci est une autre époque, nous sommes toujours dans l'époque du Père Leflot. Donc cette autorité fait que le Père Leflot est romain. Il considère que Pie X, donc, sous le pontificat duquel il entre en charge à la tête du séminaire français de Rome, et ensuite Pie XI, qui va être son, si j'ose dire, destructeur, celui qui va le condamner, et qui va l'obliger, qui va le forcer à la démission, dans une scène dramatique que je raconte d'ailleurs, et le cardinal Andrieu va être forcé aussi à la démission, dans une scène non moins dramatique, où il rentre avec sa calotte cardinaliste, sa croix pectorale, son anneau pectoral, et il sort du bureau du pape, il n'a plus sa calotte, il n'a plus la croix, il n'a plus l'anneau, il sort en fait en simple prêtre. C'est une scène absolument bouleversante. C'est-à-dire que Pie XI, que Marc Agostino connaît très bien, puisque c'est quasiment son ami intime, il a écrit sur lui, était un homme autoritaire. Vous l'aurez compris. Alors, au même moment, il y a un croisement étonnant qui s'opère entre la doctrine de Maurras, on peut dire ça, je pense ainsi, tu es d'accord, la doctrine de Maurras, qu'on appelle le maurrasisme, et la romanité. Pourquoi ? Parce que Maurras défend ce qu'on appelle grossièrement le nationalisme intégral. C'est-à-dire que le nationalisme, certes, qui est plus que patriotisme, le patriotisme et le nationalisme se recoupent ensemble dans la défense de la France contre l'Allemagne en particulier pour la revanche, mais le nationalisme, c'est-à-dire en fait une certaine idée de la France, que me dira d'ailleurs plus tard quelqu'un qui a beaucoup lu Maurras lui-même et dont le père l'avait beaucoup lu et dont le père était maurrassien, le général Charles de Gaulle. Une certaine idée de la France, c'est du Maurras. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, un poids, un territoire surtout, une civilisation, une culture, des mots, un langage, qui font que la France a une vocation spécifique dans le monde. et qu'elle ne peut pas se laisser abattre par le parlementarisme, la corruption, par les émeutes, et alors j'allais dire aussi par les juifs, par les francs-maçons, par les homosexuels, tout ce qui représente la corruption aux yeux de Maurras. Je résume très grossièrement, mais c'est ça, la société intégrale, c'est la nation tout entière dans sa beauté, c'est Jeanne d'Arc. Même si chez Le Pen, il n'y a pas beaucoup de Jeanne d'Arc, quoi qu'il faut. En tout cas, c'est ça. Et c'est l'autorité. Donc, qu'est-ce que cherche Maurras dans la restitution de ce terreau formidable qui a pétri la France ? Une restauration. Et la restauration, il la voit comment ? Il la voit à travers une monarchie restaurée. Donc, il est effectivement monarchiste. Mais c'est un monarchiste qui n'est pas un monarchiste du sacré. C'est un monarchiste profane. Il voit un système, et non pas simplement ce que l'on peut appeler une dynastie qui incarnerait la puissance absolue de quelqu'un qui est investi par le ciel, donc par Dieu, omnis potestas ad Deo, toute puissance vient de Dieu, dit la monarchie absolue. Non, c'est un système, c'est une couronne. Je tiens à dire que Charles de Gaulle, le général de Gaulle, pardon, a eu des conversations avec le comte de Paris très intéressantes à cet égard, parce qu'à un moment donné, avant la réforme de 1962, le général de Gaulle pense à une restauration monarchique. Et on l'a longtemps dit non. Mais en fait, la publication des papiers du comte de Paris et la publication des archives du général de Gaulle montrent qu'il y a eu des conversations, ce que j'appellerais des conversations empiriques, pragmatiques. En fait, le général de Gaulle regardait la possibilité de la monarchie, non pas comme Houellebecq et la possibilité du Nil, mais comme la possibilité d'une solution durable d'un système équilibré. Le maurrasisme, donc, a été en France un mouvement qui, aujourd'hui, n'a plus que, je dirais, de vagues épigones, très important. Sentiment de stabilité et de référence forcément à Rome, puisque dans le christianisme, il y a, dans la culture française, ces fameuses racines chrétiennes que vous retrouvez encore aujourd'hui dans le débat où Chirac et Jospin ont refusé de trancher, à savoir que la France n'a pas de racines chrétiennes. Ce sur quoi la papauté continue à se battre à juste titre. Et donc c'est là que le séminaire français joue un rôle important, dans un moment entre deux guerres où la France victorieuse perd brusquement le sens de son orientation. Où la crise économique la bouleverse, où la crise politique crée l'antiparlementarisme, où les gouvernements se succèdent, où la fascination des puissances étrangères est de plus en plus grande, Mussolini puis Hitler, et puis les États-Unis qui finalement bénéficient de la crise, où la France n'a plus d'identité. Je résume à gros traits, le maurrasisme a une empreinte énorme. Et donc le père Le Flot développe ça. Quelles sont les deux empreintes ? La royauté, le nationalisme intégral et Rome. Donc le paradoxe veut que, si j'ose dire, Rome n'est plus dans Rome, parce que, en vérité, la France doit retrouver Rome pour faire Rome face à une Rome qui est anéantie jusqu'en 1929 dans sa puissance internationale, puisque le pape est prisonnier au Vatican. Jusqu'en 1929, au moment des accords du Latran qui sont signés entre le cardinal Gaspari, secrétaire d'État, et Mussolini lui-même. Donc ceci explique cette formation intransigeante. Et cette volonté de rester sur un christianisme qui soit stable, ce qui n'est pas de changement possible, et d'un catholicisme qui soit fidèle au pape. Alors on a dit, tu sais mieux quiconque, que Maurras avait dit que le pape Pidis aurait dit que Maurras est un grand défenseur de la Santa Sede. En fait, c'est la Santa Fede. Donc non pas du Saint-Siège, mais de la Sainte Foi, avec une lettre qui chante tout. Donc voilà ce qui explique, pour répondre à ta question, le séminaire est bourré à l'époque de séminaristes qui sont plusieurs centaines. Il faut bien voir que, à l'heure actuelle, le séminaire qui reprend un peu des couleurs et qui est maintenant entre les mains de l'épiscopat français est à l'époque très très peuplé. Je ne peux pas vous donner la liste des noms de ceux qui, finalement, ultérieurement, feront la présence française. À Rome, le cardinal Garrone en particulier, etc. C'est un autre sujet, l'affluence française à Rome va diminuer en ce moment, ce qui est très triste, mais on peut dire quand même que la France a formé à la fois Mgr Lefebvre et le cardinal Garrone, ce qui est assez étonnant. Le cardinal Garrone a été celui que le plus, et le cardinal Villot, ancien archevêque de Lyon, qui ont le plus d'influence dans la curie romaine après le concile, et Mgr Lefebvre qui a le plus d'influence pour détruire une partie de la réputation de l'Église.
Merci pour cette réponse qui montre qu'il y a une genèse donc de l'intégrisme ou l'intégralisme. Alors il y a beaucoup de révélations dans ce livre, en particulier sur les sentiments du futur Jean XXIII, le nom selon Cali en France, qui est finalement assez ouvert, même s'il avait l'air surtout de boire du champagne et de fumer des bonnes cigarettes. Et moi je voudrais faire l'avocat du diable, si je puis me permettre ainsi. Monseigneur Lefebvre n'est pas le diable, bien évidemment.
Et je n'ai pas... Mes questions sont innocentes, hein, la défense de Mgr Lefebvre sur deux points. Le premier, sur la messe. Je trouve, et je te l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais on n'en a pas parlé, que tout de même, le pape Paul VI a été extrêmement raide dans la non-acceptation du rite de Saint-Pie-V, et qu'on aurait peut-être pu éviter des déchirements si ce pontife subtil, que nous aimons beaucoup, intelligent, fin, ne s'était pas raidi. Alors, est-ce que c'est une impression de lecture ou est-ce que c'est la réalité ? Voilà, c'est ma première question d'avocat du diable sur le pape Paul.
Alors, quand on est à Bordeaux, je ne peux pas m'empêcher, puisque tu parles du pape Roncalli, enfin le nonce, qui a écrit ses mémoires, enfin qui a écrit son journal qui a été publié, qui est d'ailleurs assez fascinant quand on voit l'activité d'un nonce, le nombre de choses qu'il pouvait faire en une journée, et surtout d'arriver à écrire le soir. Donc il y a une anecdote qui est bordelaise, que Jean XXIII, venant à Bordeaux, est invité par le baron de Rothschild à déjeuner, je ne sais où en tout cas, et qu'on lui sert un vin de très grande qualité, et que le sommelier se penche vers lui et lui dit « Mouton Rothschild » ou « Aubryon », bref. Et là-dessus, le pape prend son verre d'eau et en verse une partie dans son verre de vin. Et à ce moment-là, le baron de Rothschild le regarde, lui dit « Mais comment, Monseigneur, il n'était pas cardinal à l'époque, vous baptisez mon vin ?» Et Jean-Martin répond « Non, je le coupe. » quand même une anecdote qui prouve l'esprit de Jean XXIII. Il a fait une plaisanterie qui est moins amusante avec le cardinal Richaud. Parce qu'il a, au moment de prendre son... c'est ce qu'on appelle les bons mots d'église. Et Jean XXIII a levé son verre et il a dit « Je souhaite une mille santé, je ne sais pas, des vœux, son éminence révérendissime, puisqu'on se parle comme ça. » et en particulier, je suis très ébloui par sa femme. Et en fait, c'était fama, je veux dire réputation en italien. Et il a fait exprès. Bon, c'était ce qu'on appelle un facétieux. Pour en revenir à ce que tu dis, je lui dis, parce que comme ça se passe à Bordeaux, je trouve que c'est assez intéressant.
Oh, c'est très bon.
Mais il fait ce genre de choses assez constamment. Oui, alors le problème, c'est la question du latin et de la réforme liturgique, dite la réforme de Paul VI, qui n'est pas une réforme en réalité, qui est ce qu'on appelle le bréviaire de Jean XXIII, adapté par Paul VI. C'est une chose assez étonnante, je le raconte d'ailleurs, parce que, en fait, la liturgie, depuis le début du siècle, connaissait un mouvement de rénovation étonnant, notamment autour d'un moine qui s'appelle Dorlandois Lambert, belge, pour un effort, je dirais, de participation de plus en plus proche entre les clercs qui sont investis du sacrement et avec les fidèles qui sont les acteurs aussi, et pas seulement les spectateurs, du Saint-Sacrifice de la Messe. Et beaucoup de choses ont été tentées, et là je remercie le directeur du séminaire français de m'avoir donné des archives, et surtout ses propres textes qu'il était en train de publier, qu'il m'a généreusement offert. C'est à ce moment-là, c'est dans les années 40, 30 déjà, puis ensuite après la guerre, qu'on essaye ce qu'on appelle les messes chantées ensemble, la concélébration, qui n'était pas du tout prévue dans le rituel sur Saint-Pie-V, qui était prévue comme un rituel éternel, avait dit Saint-Pie-V, une constitution éternelle. Bon. Et donc, voilà, de voir comment on pouvait donner plus de place au texte, donc à la liturgie de la parole, comme on dit maintenant, et orienter davantage une sorte de préparation presque mystique vers le moment de la consécration et de l'anamnèse. Et donc, tout ceci était l'objet de 1000 réflexions qui ont donné lieu à très bel échange d'abord, et à une très belle constitution qui s'appelle Sacrosanctum Concilium, qui a été la première des grandes constitutions votées par Vatican II en 1963. Il faut savoir que la première session est une session désastreuse. Rien ne se passe, tout le monde s'empoigne. Le cardinal Liénard, qui est évêque de Lille, met un tohu pas possible le premier jour en disant « Nous refusons des commissions qui ont été imposées ». Bref, se met dans le concile dès le départ, ce qu'on appelle du conciliarisme, à savoir qu'au lieu que ce soit une assemblée qui réfléchissent calmement à ce que peut être l'argiardamento, donc la réforme, disons, de l'Église, c'est une employeur générale, et c'est normal, il y a 2500 personnes qui ne se connaissaient pas, qui ont toutes des idées sur la façon de faire une Église moderne dans le monde. Bon, ce texte est donc promulgué par Paul VI en 1963, Paul VI est pape depuis 1963, assez vite, en fait en décembre, le 8 décembre 1963, et c'est un très beau texte. Mais il est sûr qu'il fallait qu'il y ait des adaptations. On ne pouvait pas brusquement demander aux fidèles de recevoir la messe de face, de changer l'autel d'orientation, donner la parole, etc. Or, c'est une chose étrange, je passe, vous connaissez tous aussi bien que moi comment ça s'est passé. La France a été extraordinaire, elle a été pionnière. Immédiatement, et ça je le raconte, les évêques de France ont dit très bien, on change tout. On change tout, on dit la messe en ce public, on prend des tables en bois, les ciboires ça sert à rien, on prend des bols en céramique, on enlève les croix, enfin, il y a une espèce, je caricature, je peux me le permettre, il y a une espèce d'appauvrissement du matériel liturgique, donc de la beauté, qui a foudroyé les gens qui étaient quinquagénaires, sexagénaires, septagénaires, octogénaires, nonagénaires, centenaires, il n'y avait pas beaucoup à l'époque, et qui ont été saisi par cette nudité qui n'était pas l'expression d'une pauvreté de façon Saint François d'Assise, mais qui était l'expression d'une pauvreté du refus du sacré, de la banalisation de ce qu'était la messe. Enfin, disons, plus que la messe, de ce qu'était le rituel liturgique en général. Bon, c'est là qu'on a commencé à donner la main dans la communion, pour que ce que Rome ne souhaitait pas nécessairement. Si vous voulez, pour me résumer, c'est très long. Il y a une faculté qui a été offerte par la Constitution Sacro Sanctum Concilium, qui en France a été prise au maximum de ce que l'on pouvait faire dans l'ordre du permis. Le cardinal Poupart, avec qui j'ai souvent eu des conversations là-dessus, ou même le cardinal Villot en son temps, disait qu'on est resté, je parle des Français, disait qu'on était étonné parce qu'en Italie, il n'y a pas eu ce drame de Mgr Lefebvre à cause de ça. Les Italiens ont continué à dire la messe comme avant. Comme avant. Tout en essayant de faire entrer la parole, certes, les deux lectures, l'Ancien et le Nouveau Testament, une homélie nécessairement, la prière universelle, certainement, mais pas forcément que ce que un satiriste appelait les bêlements des fidèles qui dit pour que, etc., afin que, avec cette conclusion, afin que nous soyons plus heureux dans le monde, etc., qui ne rentre pas du tout dans l'expression du sacré d'une prière. Et c'était, en Italie, un phénomène qui petit à petit s'est acclimaté. Et au fond, on a vu la coexistence de ce qu'on peut appeler Saint Pie V avec Jean XXIII et Paul VI. Au fur et à mesure que les fidèles le souhaitaient. On a vu effectivement entrer les guitares, pourquoi pas. Mais sans le faire en France, c'était un mouvement, disons-le, radical. Bon. Tu as fait allusion à ça, donc nous sommes en 1963. Ça a été dès 1964, la chronologie très, très, très rigoureuse, puisque j'ai aussi la chance de bénéficier des archives de l'Église de France qui m'ont été offertes par Mgr Brancard, évêque du Puy. On voit que c'est fait avec une volonté vraiment qu'il n'y ait pas de possibilité de faire autrement. Et donc, il n'y a pas d'adaptation, de souplesse. Et Paul VI est averti de cette difficulté par Jean Guiton, qui était un fidèle du pape, enfin, un ami du pape, il faut le dire, qui a d'ailleurs écrit un très beau livre, c'est le dialogue avec Paul VI, dans une partie fictive. Et il a dit au pape, écoutez, faites quelque chose, revenez une possibilité. Et le pape, effectivement, a dit non. Je cite cette phrase, il a dit « jamais ». Alors, on peut se demander pourquoi. Je pense que Paul VI, qui est un grand pape, un très très grand pape, qui est un pape souffrant, qui est un pape qui a porté le martyr de l'Église italienne, le martyr du terrorisme, la mort d'Aldo Moro, qui était son ami, son assassinat, les scandales de l'Église italienne, le divorce, la mairie de Rome entre les mains d'un communiste, qui était un historien d'art, Carlo Argan, heureusement. Mais je me souviens que quand nous étions à Rome, mon épouse et moi, à ce moment-là, en poste, quand le pape et Carlo Argan sont rencontrés place d'Espagne, sur la rencontre traditionnelle entre le maire de Rome et l'évêque de Rome, le pape est évêque de Rome d'abord, tout le monde disait, mais ça va être effrayant, ils vont s'étriper, ça s'est très bien passé, Carlo Argan était un humaniste. Ce très grand pape a cru, c'était un bourgeois, hein, c'est un patricien de Brescia, enfin, ni un Concesio tout près, a eu le sentiment qu'il fallait moderniser l'Église. et qu'il fallut donner une allure qui convenait à ce monde contemporain qu'il regardait avec effarement et foi, parce qu'il se disait qu'il fallait aller avec son temps et qu'il avait hérité du Concile qu'il n'aurait pas convoqué. Ça, je crois qu'on peut le dire, Paul VI n'aurait pas convoqué Vatican II. Il en a hérité, il a porté au port, et dès la troisième session, il voulait finir Vatican II. Ça, c'est attesté par tous les textes maintenant. Il a poussé la quatrième session, et ce concile est un concile, je dirais, j'ai l'intention d'écrire un livre prochainement là-dessus, puisque nous sommes bientôt au 60e anniversaire du début de Vatican II, ce concile est un concile malheureux, qui a été très bien inspiré, mais qui a été mal conduit. Mais Jean XXIII pensait que ce serait un concile d'un an, et Paul VI a bien vu que c'est un concile indéterminé, un CDI. Et donc, il lui a fixé des termes, et en fixant des termes, il l'a un peu bridé. Le premier a cru que le concile était une affaire, simplement, entre 2500 personnes qui disaient oui, 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 et puis l'autre s'est rendu compte que ce n'est pas possible. Et en même temps, la grande peur de l'Église, c'est que l'Église devienne une assemblée conciliaire, donc on discute comme au Parlement, pour savoir si oui, si non, etc., il y a des majorités, des minorités, etc., bref. Et donc ce concile malheureux, qui était en même temps un concile qui a fait bouger les choses, notamment en Amérique latine, notamment en Afrique, a été vécu par Paul VI comme une occasion finalement de vivre la modernité et d'accepter, je vais être cruel, dans l'Église pour la liturgie, le goût d'un bourgeois moyen de la province de Brescia. C'est-à-dire l'intellectuel qui vit un peu avec du mobilier Henri II. Je suis désolé Marc, mais Paul VI qui aimait l'art n'avait aucun goût en art. Paul VI qui a modifié tout le mobilier du Vatican n'avait aucun goût en matière de mobilier. Tous les fauteuils étaient gris-souris, marron-beige, tout était comme ça. Dire que et pourtant, la maison où il est né, où j'étais encore récemment, à Concesio, une très belle maison de patriciens, il avait ce goût médiocre d'une petite bourgeoisie de province, je suis désolé, je ne suis pas en province, je suis dans une capitale ici, qui ne sait pas très bien où se situer entre la vraie noblesse et puis d'autre part le monde ouvrier, qui était celui qui fait la fortune de Brescia, qui est un monde du textile et de l'industrie. Donc je dirais qu'à la limite, il a refusé parce que la réforme liturgique était un peu selon son goût, une forme moyenne pour essayer de trouver l'accord de tout le monde, alors que tout le monde sait que même les gens les plus humbles aiment le beau. Et que là, il a raté la marche, et qu'effectivement, ce n'est pas ça qui a conduit au schisme, il aurait été quand même inévitable. Mais il aurait pu avoir une plus grande souplesse et éviter de la Saint-Nicolas du Chardonnay.
Oui. Merci pour cette...
Je suis désolé, ce que je dis possible, mais vous savez, c'est mon grand-pape pour moi, qui est bien, châtie bien.
Merci pour cette réponse brillante à une interrogation. Quant à moi, ma famille est originaire de Toscane, et je ne pense pas beaucoup de bien de la bourgeoisie de Brescia. Bon, non, parce que tu as fait une allusion.
Mais oui.
Alors, question autre qui va nous éloigner un petit peu, si tu souhaites prolonger un peu intervention. L'Afrique. Alors, deuxième question d'avocat du diable, c'est-à-dire de défense de Mgr Lefebvre. Est-ce que Mgr Lefebvre n'est pas un grand progressiste? C'est lui qui a ordonné je ne sais pas combien de centaines de prêtres africains. C'est lui qui a ordonné prêtre le futur cardinal Hyacinthe Tiandoum.
Oui.
C'est lui qui a dit, et tu le dis dans ton livre, qu'il souhaitait que ce soit Hyacinthe Tiandoum qui soit son successeur. Et c'est lui qui dit les missionnaires doivent s'en aller progressivement pour laisser la place aux Africains dans leur Église. Alors, je veux bien que ce soit avec des méthodes paternalistes, mais alors, vous faites l'avocat du diable, là, hein, mais est-ce que ce paternalisme-là ne menait pas tout de même à une certaine dignité qui aurait évité certains errements actuels si les élites cléricales et autres avaient été mieux formées en Afrique? Voilà la deuxième question d'avocat du diable.
Il faut dire, c'était ma grande stupéfaction que Mgr Lefebvre a été un très grand vicaire apostolique, délégué apostolique en Afrique. Il a fait des fondations, donc Mgr Lefebvre a été un missionnaire. Les spiritains sont des missionnaires. Et ils sont destinés à répandre la bonne parole et à établir les institutions d'Église qui permettent de fédérer les croyants autour de grandes institutions hospitalières, d'institutions scolaires, universitaires, et sont de grands missionnaires. Et d'ailleurs, c'était leur fonction fondamentale. Ce que j'ai raconté sur la fondation de 1856, c'est que ça, on se met au centre pour rayonner. On est donc centrifuge. Et on revient toujours au centre pour se ressourcer. Et donc Monsieur Lefebvre, qui d'ailleurs avait la faveur du Pie XII, a été un très grand délégué apostolique au Sénégal, en Guinée d'abord, puis au Sénégal ensuite, et il a fait des choses étonnantes que je raconte, parce que j'ai découvert ça avec stupéfaction. Non seulement il a fait des fondations de maisons religieuses, mais il a appelé aussi des religieuses qu'il a fait venir, des carmélites, il a fondé des ordres cloîtrés, des ordres contemplatifs, des ordres... et surtout, il a occupé le terrain de cette partie du continent africain avec une diligence étonnante. Bon, il prêchait bien, c'est pas un orateur, mais il prêchait bien. Il a un très beau langage, il est très bien formé, aussi bien français de Rome, et il s'est acquis une réputation de missionnaire. Il n'a pas été favorable à ce mouvement de décolonisation. Alors, surtout au Sénégal, on se pose la question, parce que c'est là que ça s'est presque le mieux passé, par rapport à la Guinée en particulier, c'est particulièrement bien passé. Il n'aimait pas tout ce qui relevait de l'idéologie révolutionnaire, Maurras. Il n'aimait pas tout ce qui pouvait être socialisant, Maurras. Il n'était pas non plus très favorable à ce qu'on peut appeler la naissance d'un nationalisme africain, même si, et là, il y a un étonnant parallèle à faire entre Lefebvre et Lyautey. À un moment donné, il explique qu'il va bien falloir que l'Église d'Europe quitte l'Afrique pour faire une Église africaine. Il faut bien voir qu'en Rome, c'était mal vu. À l'époque, le préfet de la congrégation pour la propagande, comme on dit, la propagande affidée, qui est donc en fait la congrégation pour les missions, le cardinal Agadianian, disait en parlant des Africains, mais il faut les éduquer, mais on ne pourra jamais avoir d'Africains dans la hiérarchie. Et quand les premiers Africains sont arrivés à Rome, je me souviens très très bien de certains d'entre eux, ils étaient désorientés. Et on disait en plaisantant, ils sont dépotés. Donc, ils ne savent pas très bien ce que c'est que vivre en Europe. Je ne pense pas que l'Église romaine ait toujours été très charitable vis-à-vis de ses frères des pays lointains, dits du tiers-monde à l'époque, ou en voie de développement. Pas toujours. Il faut dire une chose honnêtement. Et Mgr Lefebvre est celui qui a consacré Hyacinthe Tianoum, qui lui a succédé, le premier. Tianoum est un des premiers, je ne sais pas, peut-être le premier évêque africain consacré par un évêque français. Voilà. Mgr Lefebvre s'est attiré la haine de l'épiscopat français. C'était un proconsul, Téverès. Il régnait sur l'Afrique avec les pouvoirs qui lui avaient été octroyés par le pape, absolument maître. Non pas qu'il eût un train de cour extraordinaire, il n'avait pas de voiture spectaculaire, on ne tenait pas sa cape qu'il n'avait pas, parce qu'il n'était pas cardinal, il n'a jamais été seigneur. Il avait un train de vie assez simple, mais il était assez seigneurial, et plutôt d'ailleurs bien de sa personne. Disons qu'il avait un côté un peu princier. Je pense que la pire époque de l'épiscopat français, je le dis d'autant plus qu'il n'y a pas d'évêque dans la salle, c'est celle des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, où l'épiscopat français s'est taxé d'ouvriérisme, d'anticolonialisme, de socialisme, de gauchisme, de marxisme, et a pensé qu'il fallait, comme dit le général de Gaulle, et en plus, a-t-il dit pour l'évêque de Nantes, il défile à la tête des ouvriers qui font grève. Et c'était vrai. Il y a une espèce de socialisation étrange de ces épiscopats d'action catholique. J'ai écrit là-dessus avec Catherine Grébion un livre qui s'appelle « Les lieutenants de Dieu », où on montre que, on ne sait pas pourquoi, au lendemain de la guerre... Ah, en fait, si, on sait pourquoi, en réaction à Vichy. Par crainte d'avoir passé pour un épiscopat qui avait collaboré, ce qui fut moyennement vrai, et que la seule personne éminente qui sortait de l'épiscopat français, c'était Mgr Saliège, fait cardinal par Pie XII, à la demande de Vincent Auriol, franc-maçon. Faut le faire. Hein. Et puis vous a cédé, faut le faire aussi. L'épiscopat français est devenu gauchiste. Donc ce proconsul étonnant, qui était princier, qui était celui qui répondait à la mission, a été pris en haine par les évêques français. Donc à un moment donné, il a fallu le remplacer et son mandat était arrivé à échéance. Et par conséquent, on a cherché à lui donner un évêché en France. Et les archives le prouvent. J'en suis désolé pour les évêques, puisque si m'ont ouvert les archives, il ne fallait pas les ouvrir. Les évêques sont opposés immédiatement à ce qui est un grand évêché, et a fortiori un archevêché. Donc on lui a donné Tulle. Alors ça, on a toujours dit que Richelieu avait été à la tête d'un évêché crotté, mais là, il est arrivé, il est tombé de haut. Parce que Tulle, c'est quand même pas le centre de la chrétienté européenne.
On respire bien.
Donc il a senti la disgrâce. Cette disgrâce a fait qu'il a fondé ensuite Écône, sur lesquels, d'ailleurs, je ne suis pas assez explicite, parce que j'ai appris depuis que les circonstances financières de l'Écho étaient tout à fait différentes. Il a été financé par un grand banquier suisse. Ça, je ne sais pas pourquoi. Car cette Écho, c'est quelque chose, je veux dire, c'est un vrai séminaire. C'est pas une maison de campagne. Si c'est une maison de campagne, c'est un séminaire. Et donc, il a fondé Écho, et étant devenu... il est resté archevêque et titre personnel. Ce qui agaçait ses confrères évêques français. Archevêque et titre personnel. Il n'y a rien de pire. Donc, il avait tout pour lui. Bon. Alors, pour résumer, pour ne pas diluer le propos qu'on peut lire, c'est que Mgr Lefebvre a été un homme qui a été humilié. Profondément humilié. Et il faut le dire parce que ça explique certains traits de son caractère, notamment l'arrogance et la volonté de trouver auprès de ses confrères une sorte de place qu'il semblait lui devoir mériter en tant que Romain. Et donc, le grand moment de la rupture entre l'épiscopat français et Mgr Lefebvre, c'est la fameuse Assemblée générale de 1962 à Lourdes, où Mgr Lefebvre demande à assister à l'Assemblée générale alors qu'il n'est qu'archevêque dit personnel, et donc il n'est plus évêque de Tulle, mais il est déjà à Écône. Et je dois le dire, les archives sont accablantes pour l'épiscopat français, accablantes, parce qu'on lui refuse. On lui refuse, et on lui refuse violemment. Et on lui dit, d'autre part, on ne parlera pas de la situation d'Écône au cours de l'Assemblée. Or, on en parle, et on ne parle que de ça. Et donc, il le sait, naturellement. Il y a tout de même, je ne vais pas faire de nom en public, mais il y a quand même deux ou trois personnes qui ont joué un très mauvais rôle, qui ont écrit des choses accablantes à Mgr Lefebvre sur son caractère, sa nature, son orgueil, etc. Alors je ne dis pas qu'on puisse résumer l'histoire à un caractère, ça c'est faux. Mais je dirais qu'on n'a pas aidé à assumer ce qu'aurait dû être son vrai rôle dans la réception de Vatican II. À un moment donné, il faut dire aussi qu'après Vatican II, il y a une chute verticale des vocations. La France, notamment, connaît deux chutes verticales des vocations. Après la condamnation des prêtres ouvriers en 1953-54, où là, il y a une hémorragie, notamment mon père chez les Dominicains, puisque vous êtes les premiers frappés. Nous sommes d'accord. Et ensuite, après 1968, parce qu'il y a la combinaison entre l'héritage du Concile, sa réception, qui n'est pas bonne, la liturgie, qui est désastreuse, et ensuite, si j'ose dire, R, et donc tout ceci mis ensemble fait un cocktail explosif, et les séminaires se vident. Et c'est aussi à ça que pense Mgr Lefebvre, à savoir qu'il faut qu'il remplisse ses séminaires. Donc il revient à cette idée qu'en reprenant la tradition, d'où ce qu'on appelle l'intégralisme. L'intégralisme, qui vient d'ailleurs du latin intégrer, c'est-à-dire pur, c'est garder authentiquement ce qui existait sans jamais vouloir le modifier. Et donc faire en sorte que si on garde le noyau dur, au moins quelque chose subsiste. Donc on ne modifie rien. Donc on revient... Pour le coup, donc on est forcément intégraliste, on est traditionnaliste. On revient forcément à l'ancien système, à la liturgie de l'Eucharistie et de la messe d'eau aux fidèles, etc. C'est à ce moment-là qu'il a ce projet, qui est un projet d'église, à savoir faire son église, qui est une église, je ne dirais pas post-conciliaire, mais qui est une église qui, au fond, considère que le concile n'a quasiment été que ce qu'on appelle une parenthèse historique, comme certains historiens disent pour Vichy. Vichy, parenthèse historique, à voir. Le concile, parenthèse historique, non.
Oui, il faut dire, enfin, avant peut-être de conclure, que l'Église de France, tu parlais tout à l'heure d'adaptation de la liturgie en Italie, que je connais bien moi aussi, bien sûr, et l'Église de France et l'Église italienne, il n'y a pas photo. Au niveau de l'ampleur des débats, de la profondeur des homélies, je parle du courant, hein. Je pense que la grandeur de la France, c'est peut-être aussi ses divisions, c'est aussi ses débats, c'est aussi ces approfondissements. Alors, une question terminale, si je puis m'exprimer ainsi. Un vieux sulpicien, déjà il y a quelques années, avait été un des premiers à me dire, Lefebvre, qu'il avait très bien connu, c'est un doux obstiné. Alors, Jésus parlait de heureux les doux, mais faut-il vraiment se méfier des doux obstinés? Est-ce que finalement, ça explique une espèce d'obstination, une espèce de certitude personnelle? On ne peut pas tout ramener au caractère, mais tout de même.
En italien, il l'appelait un dolce testardo.
Ça, voilà, même, c'est, oui. Ça fait écho.
Dolce testardo, oui, têtu. Non, la seule chose intrigante dans cette sinistre affaire Lefebvre, qui probablement va trouver une issue, c'est qu'à plusieurs reprises, l'accord était conclu. Et qu'à chaque fois, on ne sait pas ce qui s'est passé la nuit, si M. Lefebvre recevait une visitation quelconque, ou une flamme de la Providence, ou le Saint-Esprit à 2h du matin, le lendemain, c'était fini. il disait je n'accepte pas. D'ailleurs, je suis très content que tu poses la question. On ne peut expliquer là, l'obstination de ce non moins doux têtu qui s'appelle Benoît XVI à vouloir régler l'affaire Lefebvre que par le fait que Ratzinger a cru que la nuit qui a précédé la décision définitive d'ordonner, enfin de consacrer, quatre évêques, il avait obtenu l'accord. Il y a passé un temps infini. Cet homme admirable, qui est un grand négociateur, qui savait tout, avait obtenu l'accord de Monsieur Lefebvre, parce qu'il y a des lettres étonnantes, c'est-à-dire que quand Jean Guiton envoie une lettre à Monsieur Lefebvre, disant « Ne faites pas ça, vous êtes en train de déchirer la tunique unique de l'Église, j'en verserai des larmes de sang », c'est une lettre bouleversante, c'est-à-dire que... Et il y a eu des Tiandoun, le futur cardinal Tiandoun, qui écrit à son maître, en disant « Ne faites pas ça, vous ne vous rendez pas compte ce que vous êtes en train de faire, mais pour moi, c'est épouvantable, vous êtes en train de ruiner ma foi, vraiment. » Et Ratzinger, donc à l'époque, croit qu'il a obtenu. Et il le croit fermement. Et le lendemain matin, il apprend que l'accord est déchiré et que la consécration des évêques se fera. Et on ne peut obstiquer, c'est pour ça que la presse joue un rôle quand même assez mauvais quand on a raconté que finalement Ratzinger était un réactionnaire qui était plutôt lefévriste que montignien, etc. C'est faux. Ratzinger a eu de cesse, dès qu'il a été élu souverain pontife, ce qu'il a su très tôt, de faire en sorte de raccommoder la tunique unique de l'Église. Et il a raison, d'ailleurs, parce que ça ne peut pas durer. Et en fait, maintenant, il y a un faux-semblant. Qu'est-ce qu'on dit à Rome ? On dit, mais non, ils ne sont pas du tout excommuniables, puisqu'ils ont reconnu l'autorité du pape. Mais c'est une subtilité diplomatique auquel notre très cher cardinal Torrent se prête pour mon plus grand amusement, à savoir qu'ils reconnaissent l'autorité du pape. D'accord. Mais ils ne reconnaissent pas Vatican II.
Et la liberté religieuse.
Et la liberté religieuse. Alors, bon, tout ça, ça va passer. Il y a quand même beaucoup de prêtres, d'écônes, de séminaristes qui ont été réconciliés avec l'Église par Rome, etc. On a fait des séminaires transitoires. À Bordeaux, il y en a eu d'ailleurs. Bon, très bien. Et le cardinal Ricard a joué un rôle très. Le cardinal Ricard ne doit son chapeau qu'au fait qu'il a joué un rôle éminent dans le rapprochement avec le lefévriste. Éminent. Et avec beaucoup de subtilité. Donc, Ratzinger a voulu ça, il avait raison. Mais c'est pour dire par rapport à ta question que ce phénomène étonnant de cet homme qui négociait et qui l'homme à taille disait non, c'est non. Et là, je crois qu'il y a ce qu'on peut appeler un errement de la conscience et de l'identité. Il a cru qu'à chaque fois, on voulait le piéger, qu'on voulait l'amoindrir. Il a vieilli, d'autre part. Il avait vieilli. Et donc, il meurt peu de temps après. Et il s'est dit que je serais dépossédé. Et un peu déposé de son image. Et au fond, il y a deux personnages qui se ressemblent dans l'Église de France depuis maintenant 50 ans, et qui sont deux personnages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est Gaillot et Lefebvre. C'est la même chose. C'est la même chose. L'un à gauche, l'autre à droite. L'un qui aime le clergé à Tahiti et qui considère que l'évêque est forcément celui qui a une indépendance dans l'Église qui lui appartient et que donc il vaut mieux défendre le droit au logement que s'occuper de la théologie. Et l'autre qui pense que de toute façon, c'est à lui de juger la façon dont on forme les prêtres. Et donc, je vais dire en conclusion, c'est les deux mêmes, c'est deux frères d'armes. Un à gauche, un à droite. C'est Ségolène Royal et Sarkozy. Voilà, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Et tous les deux sont empreints d'un ego absolument démesuré. Démesuré. Et c'est absolument... Alors, c'est là que l'historien se pose des questions. Tout le monde dit si Louis XVI avait été sorti du palais de Versailles à cheval avec une épée, la révolution n'aurait pas eu lieu. On oublie aussi que Louis XVI était très grand, néanmoins. Bon. Pourquoi pas, on peut, et si Napoléon, etc., ça s'appelle de l'uchronie, c'est-à-dire de l'histoire avec une autre histoire. Mais c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné, chez Lefebvre, une obstination étrange, malgré tous les médiateurs. Et Guiton, qui était un homme très très subtil, disait lui-même qu'il ne savait pas comment venir à bout. Et donc, voilà, ce qui explique l'un explique l'autre. Oui. Je veux dire qu'à un moment donné, s'incliner, obéir, se soumettre... La force de Rome, c'est qu'elle a toujours obtenu la soumission. Toujours. Tout schisme a toujours été résolu en faveur de Rome. Toujours. Sauf le schisme anglican, mais qui n'est pas un schisme d'ailleurs, qui est un peu différent. Et voilà. réconciliation depuis, le grand schisme d'Orient, mais c'est évident que Lefebvre ne pouvait plus, il ne voulait plus accepter la soumission à Rome demandée par Jean-Paul II et surtout par Ratzinger, qui pourtant est un homme, on ne le croirait pas, mais qui est d'une douceur extraordinaire et qui a dû certainement traiter Monsieur Lefebvre avec la meilleure des aménités. Voilà.
Merci. D'abord, ce qui est bien avec Philippe Le Vilain aussi, je le dis aux futurs lecteurs de ce livre, c'est qu'on apprend toujours des mots. Alors, acheter un dictionnaire pour deux ou trois mots. Par exemple, uchronie. Eh bien, mon cher ami, tu es la première personne. Je ne connaissais pas l'uchronie, je connaissais l'utopie. Alors voilà, j'ai enrichi mon vocabulaire. Eh ben, il y a quelques mots comme ça qui vous seront des petites perles. Écoutez, nous remercions très vivement Philippe Le Vilain. Je crois que c'est passionnant et que pour nous, en tout cas, Roma locuta est, causa finita est. Simplement, on n'a jamais dit en combien d'années. Et je crois que c'est un peu ça le problème.
Et d'ailleurs, Rome n'est plus dans Rome, la phrase complète, c'est Rome n'est plus dans Rome, elle est tout où je suis. Voilà. Et il y a une pièce de Gabriel Marcel qui s'appelle Rome n'est plus dans Rome aussi. Voilà.
En tout cas, ce fut passionnant, et le livre vous donnera des précisions que Philippe Le Vilain va signer maintenant pour ceux qui le désirent.
C'est la promotion commerciale, ça.